Drogue, contrôle, performance, soupçon.
De la gloire au scandale,
comment la soif de victoire a pu bouleverser le monde du sport.
Bonjour tout le monde et bienvenue à ce quatrième épisode de la série des grandes entrevues du balado de la chaire de recherche sur le sport responsable de l'Université de Sherbrooke intitulée « De la gloire au scandale ». Je suis votre hôte, Vincent Gianjoppi. Lors du dernier épisode, je me suis entretenu avec deux anciens collègues du DESS en gouvernance du sport et antidopage, soit Boubacar Traoré et Abou Ngam. Nous avons parlé pendant environ une heure de la gouvernance du soccer en Afrique, sujet qui est encore aujourd'hui très chaud là, suite à la récente décision de la Confédération africaine de football de retirer le titre de champion de la dernière Coupe d'Afrique des Nations au Sénégal et de l'attribuer au Maroc. Je vous recommande donc fortement d'écouter cet épisode si ce n'est pas déjà fait. Mais aujourd'hui, nous avons le privilège d'accueillir nul autre que Sandrine Mainville, avocate spécialisée en droit du travail et associée senior au sein du cabinet Borden Lanner Gervais. Avant d'occuper ce poste, Sandrine a connu une illustre carrière comme nageuse olympique, remportant plusieurs honneurs, dont une médaille de bronze au relais style libre 4x100 mètres aux Jeux olympiques de Rio en 2016. Elle est avec nous en visioconférence. Sandrine, tout d'abord, bien, merci beaucoup d'être avec nous, de prendre ce temps-là. Et comment ça va?
Merci de me recevoir, ça va super bien. Vraiment contente d'être là avec toi aujourd'hui.
Bien, c'est un plaisir pour moi aussi. Sandrine, en faisant des recherches sur toi, bien, j'ai remarqué que tu avais toi-même ton balado intitulé « Point 01 » où tu abordes différents sujets et enjeux du monde du sport, toujours avec des invités très intéressants, et même David Pavot, qui est directeur de la chaire de recherche pour laquelle on effectue ce balado même. Vous avez parlé de lutte antidopage. Comment on se sent là, cette fois-ci d'être la personne qui se fait interviewer?
J'aime ça aussi me faire interviewer de temps en temps, mais j'avoue que ce podcast-là m'a permis de justement aborder certains enjeux, en fait, d'un angle différent, surtout puis de recevoir des spécialistes, des experts comme David, ça a été super intéressant. On dirait que, de façon très noble, je ne m'imagine pas être une experte de me faire interviewer pour des sujets comme aujourd'hui, mais ça me fait plaisir d'être là, puis je me prête au jeu.
Ben, avec grand plaisir. Et pour avoir moi-même écouté quelques épisodes, là, effectivement, les invités, les discussions que vous avez, je pense à celle avec Roselyne Filion ou même celle avec David Pavot, très, très, très intéressante. Puis j'en ai beaucoup appris moi-même de mon côté. Alors, Sandrine, je te propose qu'on débute avec quelques questions sur ta carrière sportive, de comment tu es rentrée dans le monde de la natation, jusqu'à certains de tes plus grands accomplissements. Ensuite, on va davantage rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire cette transition-là que tu as vécue du milieu sportif au milieu professionnel, qui s'est vraisemblablement accompagnée de beaucoup d'interrogations. Et on va peut-être terminer avec une petite discussion plus sommaire sur le monde du sport au Canada. Alors Sandrine, tu es née à Boucherville en 1992 et dès ton plus jeune âge, tu commences à nager, notamment aidée par ta mère qui travaillait dans un centre récréatif. Et à 11 ans, tu commences à faire de la compétition. C'est un âge relativement avancé pour débuter à faire de la compétition. Peux-tu nous expliquer comment cette décision en est venue à être et peut-être qu'est-ce qui t'a poussé à continuer au plus haut niveau par la suite?
Oui, bien effectivement, comme tu le dis, c'est quand même un âge avancé pour commencer à faire de la compétition, mais je pense que dans mon cas, c'est vraiment ce qui m'a aidé à performer au bon moment dans ma carrière. Puis quand je dis au bon moment, c'est quand j'étais peut-être rendue un petit peu plus mature. Je pense que quand on est jeune, en tout cas, moi, je pense que je prône vraiment le fait de découvrir plusieurs sports, puis de pas nécessairement commencer un sport de façon trop sérieuse, trop jeune, pour peut-être éviter de brûler l'athlète à un trop jeune âge. C'est sûr qu'on a des exceptions comme des Summer McIntosh qui performent à un très jeune âge, mais je pense que la norme, ça reste quand même que la performance arrive au niveau de l'âge adulte, donc 18 ans et plus, dépendamment des sports, évidemment. Mais dans mon cas, ça a vraiment été, ça s'est fait comme ça. T'sais, les Olympiques, j'avais 24 ans. J'avais essayé pour Londres en 2012, j'avais 20 ans. Et donc, je pense que ça suivait vraiment ma courbe de performance de façon naturelle. Puis c'est sûr que quand j'étais plus jeune, ben c'est ça, j'ai fait plusieurs sports, j'ai un peu touché à tout. Puis c'est vraiment vers l'âge de 11 ans que là, mes parents, étant deux grands sportifs, m'ont fortement suggéré de peut-être m'investir de façon plus sérieuse dans un sport en particulier. Parce que je pense qu'eux, à ce moment-là, ils savaient c'était quoi les avantages de s'investir dans un sport. Et donc, la petite histoire, moi, je voulais faire de la gymnastique parce que toutes mes amies faisaient de la gymnastique, mais j'étais peut-être un peu trop grande, puis aussi considérant les nombreuses blessures avec le sport de la gymnastique, on m'a invitée à essayer la natation. Mais c'est sûr que j'avais déjà nagé plus jeune, mais à partir de ce moment-là, honnêtement, comme on dirait, the rest is history, puisque j'ai jamais arrêté, puis je me suis améliorée à chaque année, je gravissais les échelons, je m'améliorais de plus en plus. Donc, c'est sûr que ça l'a amené en moi un sentiment de vouloir aller encore plus loin.
Et tu mentionnais ta famille, justement, ben la natation, ça semble d'être une affaire de famille. Comme mentionné, bon, ta mère travaillait dans un centre récréatif, ce sont tes parents qui t'ont embarqué dans le monde de la natation, mais également ta sœur Ariane, qui a été une nageuse de très haut niveau. As-tu eu la chance de partager quelques souvenirs de natation de haut niveau avec elle lors de ta carrière?
Les compétitions de haut niveau, on était un peu décalés en termes d'âge. Fait que les compétitions qu'on a faites ensemble, et on a eu la chance de se retrouver sur le podium ensemble à plusieurs reprises. Le premier souvenir qui me vient en tête, c'était les Jeux du Québec en 2007.
Ah ouais!
Je pense que c'était aux 50 mètres libres. Puis ma mère, d'ailleurs, était bénévole aux Jeux du Québec. Donc, c'était vraiment... Puis mon père, évidemment, était dans les estrades. Donc, c'était vraiment une belle histoire de famille. Puis un peu plus vieille, bien, les deux, en fait, on représentait les Carabins de l'Université de Montréal sur le circuit universitaire. Donc, on s'est retrouvés sur le podium ensemble à plusieurs reprises. On faisait des relais ensemble. Oui, c'est sûr que d'avoir ma sœur à mes côtés, ça rendait l'expérience beaucoup plus agréable. Puis c'est sûr qu'on parlait beaucoup de natation à table. Puis il faut dire aussi que j'ai un frère qui nage pas. Donc, des fois, il fallait diversifier un peu les sujets. Mais oui, certainement, le fait d'avoir des athlètes dans la famille, ça a vraiment facilité en fait le support que j'avais autour de moi.
Sandrine, en faisant des recherches sur toi, j'ai remarqué qu'à Boucherville, depuis quelques années, il existait un bassin qui portait ton nom au complexe aquatique Laurièvre-Cormier. Peux-tu me parler de l'importance de ce complexe aquatique-là et quel effet ça fait là, d'avoir un bassin nommé en son honneur à Boucherville?
Honnêtement, je suis extrêmement honorée. J'étais très fière et humble de savoir que la ville avait décidé de nommer ce bassin à mon nom. Donc, il y a eu des grandes rénovations au complexe aquatique de Boucherville dans les années en 2015 et 2007. L'inauguration était en 2007, donc c'était un an après ma performance aux Jeux olympiques. Moi, c'est dans le fond la nouvelle piscine, celle qu'ils ont nommée à mon nom. C'est une nouvelle piscine, donc c'était pas celle que je me suis entraînée parce que, en fait, celle que je m'entraînais est comme devenue, pour le judo, là, c'était comme la salle de... C'est maintenant la salle de judo, donc c'est totalement...
un peu moins aquatique.
Un peu moins aquatique, mais non, c'est sûr que j'étais extrêmement honorée d'avoir un bassin à mon nom. Il faut dire que mes débuts ont été faits à Boucherville. Je vais toujours avoir une attache particulière pour cette ville-là. Quand je retourne là, je me sens tout le temps... Je suis très nostalgique, donc c'est très significatif pour moi d'avoir cet honneur-là.
Tu parlais des Jeux du Québec de 2007, tantôt avec ta mère qui était bénévole. Est-ce que les Jeux avaient lieu à Boucherville?
Non, les Jeux du Québec, j'ai fait deux Jeux du Québec. En 2005, c'était à Amos, puis en 2007, c'était à Sept-Îles.
Ah, OK.
Donc,
OK, ouais. Bon, je me demandais. Sandrine, au cours de ta carrière sportive, tu as participé à de nombreuses compétitions au niveau, évidemment, universitaire, national, international. À l'exception des Jeux olympiques de Rio en 2016, est-ce qu'il y a une ou des compétitions pour lesquelles tu es particulièrement fière, que tu aimerais mettre en lumière, qui ont marqué ton parcours autant sportif que personnel, peut-être?
Mon Dieu, il y en a plusieurs.
Oui, j'ai remarqué ça en faisant mes recherches, que beaucoup d'accomplissements.
Ben ouais, puis c'est aussi qu'ils ont toutes leur propre signification. La première fois que j'ai gagné une médaille internationale, c'était au championnat du monde. C'était à Kazan en 2015, puis on avait un relais style libre mixte. Donc, c'était deux hommes, deux femmes. C'était une nouvelle épreuve au championnat du monde. Puis c'est sûr que ça brassait un peu les cartes, justement, parce qu'on n'était pas habitué à avoir deux hommes, deux femmes. Mais on a gagné une médaille de bronze. Puis c'était la première médaille internationale que j'avais, justement. Donc, ça a vraiment été une espèce de réalisation pour moi que c'était possible de me mesurer aux meilleurs athlètes au monde. Puis la médaille à Rio est arrivée un an après. Là, donc, je pense vraiment que ça a été un catalyseur pour la suite. Mais après, je te dirais que c'est difficile là, d'en nommer une seule, surtout avec celle de Rio. Là, j'avoue que ça prend beaucoup de place dans mon cœur.
Oui, j'en doute pas. Et non, effectivement, pour avoir fait de mes recherches, je regardais ton palmarès au niveau des carabins, comme tu mentionnais tantôt, des différentes Coupes du monde, des Jeux panaméricains, tout ça, c'est vraiment un beau cabinet là, que tu as rempli au cours de ta carrière. Et bon, tu parlais des Jeux olympiques de Rio. Cette expérience-là aux Jeux olympiques en 2016, ben, elle n'aurait peut-être pas été possible si tu n'avais pas pris la décision de quitter Montréal pour aller vivre à Toronto afin de t'entraîner là-bas en 2014. Peux-tu nous parler de comment cette décision a été prise et de l'expérience en général, des bons et des moins bons moments?
Oui. Pour faire une longue histoire courte, à ce moment-là, je m'entraînais au Centre national de natation de Montréal. Puis à l'époque, il y avait 5 centres nationaux de natation, dont un à Montréal. Et puis, c'est ça. Ben, en fait, au début de la saison 2013-2014, on nous a annoncé que le centre allait fermer temporairement. Puis finalement, ça s'est avéré que ça a été fermé de façon permanente. Mais c'est sûr que 2 ans avant les Jeux olympiques, donc à mi-cycle olympique, une annonce comme ça, c'est sûr que ça vient chambouler un petit peu les plans. J'aurais pu évidemment rester à Montréal puis continuer d'entraîner avec mon groupe, avec mon entraîneur, mais je t'avouerais que le groupe n'était plus le même que celui qu'il était en prévision des Jeux de Londres de 2012. Il y avait certaines personnes qui avaient pris leur retraite. Et je dois dire aussi même que le stade olympique était en rénovation. La piscine, je pense que ça a été en rénovation pendant 2 ans. Donc, on était relocalisé un peu partout à Montréal. Donc, ce n'était pas des conditions qui étaient super optimales en vue d'une performance olympique. Donc, j'ai pris la décision de voir, en fait, c'est quoi les options qui s'offraient à moi. Puis de là est venue ma décision d'aller à Toronto, qui était après avoir magasiné, comme je dirais, parce que je suis aussi allée voir à Vancouver, qui était un autre centre national qui existait. J'ai réalisé que Toronto, c'était vraiment la meilleure option pour moi. Puis il faut dire que c'est un peu le hub, que je pourrais dire, du sprint en natation au Canada. On a vu que, en fait, tous les membres de l'équipe de relais qui ont gagné la médaille du 4x100 mètres libre à Rio s'entraînaient toutes à Montréal, incluant moi. Excusez-moi, à Toronto, pardon. Donc, je savais un petit peu que le centre s'en allait dans cette direction-là en ayant parlé à l'entraîneur. Donc, Puis honnêtement, je t'avouerais que c'était quand même un risque à prendre parce que je mettais mes études sur pause. Je me disais, bon, peut-être que je vais avoir fait tout ça pour rien, mais je pense que ça m'a fait prendre compte de l'importance, en fait, de prendre des risques comme ça. Puis rendu là, je me suis dit, au moins, je vais avoir essayé. Puis ça s'est avéré que ça a été probablement la meilleure décision que j'ai prise dans ma carrière, dans la mesure où ça a été tellement une expérience parce que j'ai dû m'adapter tant au niveau de la langue, tant au niveau du style d'entraînement. J'étais plus chez moi, j'étais plus dans mes pantoufles à Montréal. Donc, je pense que c'est dans des situations où est-ce qu'on est à l'extérieur de notre zone de confort qu'on est capable de vraiment atteindre un autre niveau. Puis dans mon cas, ça a vraiment été ça. Mes performances sont se sont drastiquement améliorées dès la première année. Puis ça a été comme vraiment au bon moment. Je pense que j'ai changé 2 ans avant. C'est sûr que peut-être que si j'avais changé même un an avant, ça aurait été encore mieux, mais j'ai quand même fait ce que je voulais. Mon objectif était atteint de faire l'équipe, puis ensuite, honnêtement, d'avoir la médaille. C'était la cerise sur le sundae.
Mais tu fais justement du pouce sur ma prochaine question. Alors, suite à ce déménagement-là à Toronto, tu as participé aux essais, des essais olympiques à Toronto en 2016, où tu as terminé 3e au 100 mètres en nage libre, ce qui, évidemment, t'a permis d'obtenir une place sur le relais de la première équipe olympique. Comme tu as dit tantôt, the rest is history. Cet honneur-là, ce résultat-là, est-ce que c'était pour toi une surprise ou c'était avant tout la récompense là, de tous les efforts que tu avais fait dans les dernières années?
Bien, je pense que tu ne t'attendrais peut-être pas à cette réponse-là, mais pour moi, c'était une 3e place qui était un peu bittersweet, dans le sens que j'aurais bien aimé arriver parmi les 2 premières et me qualifier ainsi pour l'épreuve individuelle. Parce qu'en natation, pour se qualifier pour les championnats du monde ou les Jeux olympiques, il y a seulement 2 personnes par pays, par épreuve. Et donc, ils prennent les 2 premières s'ils font le temps de qualification. Puis, pour le relais, ils prennent les 4 premières et possiblement même 5-6e s'il y a assez de profondeur pour faire nager plusieurs filles sur le relais en préliminaire versus en finale. Donc, pour moi, j'avoue, quand j'ai touché le mur et que j'ai vu un 3 à côté de mon nom, c'était... check en termes de j'ai fait l'équipe olympique, mais j'étais quand même, il y avait quand même une mini déception, si je pourrais dire, du fait que j'avais pas pu faire l'épreuve individuelle. Puis la réalité, c'est que 2 jours plus tard, à l'épreuve du 50 mètres libre, je suis également arrivée 3e. Donc, c'était comme 2 troisième places qui étaient quand même assez difficiles, mais tout est relatif là, dans la mesure où j'avais quand même mon billet pour Rio. Puis, c'est ça. Donc, pour répondre à ta question, est-ce que c'était une surprise? Est-ce que c'est le résultat de mes efforts? Les 3 filles sur le podium, et même aussi, je pense, la 4e, c'est toutes des filles avec qui je m'entraînais à chaque jour. Puis, tu sais, à chaque jour, durant les entraînements, on avait tous nos moments où est-ce que, ben, des fois, il y en avait une qui nous battait, l'autre jour, c'était un autre. Fait qu'on était pas mal toutes au même niveau, je te dirais. Puis je pense que c'était juste une question de qui va être capable de faire la meilleure performance cette journée-là. C'était un peu difficile à prévoir quelles allaient être les positions, mais c'est pour dire que j'étais quand même contente de savoir que c'était notre équipe qui était qualifiée pour faire les Jeux olympiques.
OK, wow, j'ignorais complètement ça parce que je regardais ton palmarès et j'avais vu plusieurs épreuves justement de 4 fois 100 mètres, tout ça, donc j'avais l'impression que c'était peut-être une spécialité, les relais, mais OK, non, j'ignorais complètement
en fait,
ça.
Ben, c'est comme quasiment devenu une spécialité dans la mesure où j'en ai quand même fait beaucoup. Les championnats du monde en 2015 également, j'avais pas d'épreuve individuelle, ou si j'en avais une, c'était seulement le 50 mètres papillon, qui n'est pas une épreuve olympique. Là. Donc, j'ai vraiment en fait beaucoup de relais dans des compétitions internationales. Puis, c'est un peu, si tu demandes à n'importe quel nageur dans le monde, vont toujours te dire que les relais, des fois, c'est accessoire dans le sens que c'est l'épreuve individuelle, c'est la raison pour laquelle on s'entraîne, je te dirais. Mais puis après ça, les relais, tu sais, c'est le fun. Et on peut faire une épreuve en équipe. Puis moi, ma mentalité par rapport à ça a vraiment évolué justement parce que j'en ai fait beaucoup. Puis j'ai réalisé que de faire des épreuves en équipe comme ça, ça m'apportait tellement... En fait, c'est une expérience tellement différente. Tu partages l'expérience avec d'autres personnes, avec tes coéquipiers. Puis moi, dans mon cas, c'était avec des filles avec qui je m'entraînais à chaque jour. C'est pas tous les pays qui ont la chance de se ramasser à une compétition internationale puis de faire un relais avec des filles qu'elles connaissent. T'sais, des fois, ils vont s'entraîner aux 4 coins du pays puis ils se retrouvent une semaine avant la compétition pour faire une épreuve ensemble. Donc, je pense que moi, ça a été vraiment des expériences mémorables de faire ça avec mes amis essentiellement. Puis de gagner une médaille, en fait, de gagner une médaille ou juste de faire l'épreuve avec ses coéquipiers, ses amis, j'ai réalisé à travers les années que c'était vraiment, c'était vraiment quelque chose de gratifiant et quelque chose de le fun comparativement à une épreuve individuelle où est-ce que t'es seul, tu sais, du début à la fin dans la préparation et tout, puis tu partages ta joie seul. Fait que, ouais, c'est vraiment une expérience différente, en effet.
Et d'un point de vue sportif, est-ce que tu crois que ça donne un avantage ou une plus-value de s'entraîner avec ces filles-là sur une base quotidienne?
100%. Je pense vraiment qu'on était capable de s'élever chacune d'entre nous tout le temps au prochain niveau. T'sais. Je pense que s'il y avait une journée que quelqu'un se sentait plus down, ben, il y en avait tout le temps une qui avait de l'énergie et qui était capable de nous ramener vers le haut. Puis, je pense que ce que ça fait aussi, c'est que le standard continue tout le temps d'être relevé. Dès qu'il y a quelqu'un qui fait une performance qui est significative, un bon temps au 50 ou au 100 mètres libre, qui était toute notre épreuve, bien, on dirait qu'on va tout aller chercher à faire la même chose, donc à aller plus vite, à mieux s'entraîner. Donc, essentiellement, je pense que ça élève le standard pour tout le monde. Puis c'est ce qui nous a permis, je pense, en grande partie, de gagner cette médaille-là en 2016, c'est parce qu'on a été capable de tous s'élever vers le haut.
Vous aviez évidemment un ordre à respecter lors de ce relais pour lequel tu étais la première. En quoi, globalement, ça signifie ça d'être la première d'un relais d'une course comme ça?
Oui, moi, c'était mon spot de prédilection. Chaque spot, excuse-moi, j'ai pas le terme francophone, là, mais chaque rang a une... dans le fond, on a toute notre spécialité, je te dirais. Là, généralement, on va mettre la meilleure, celle qui est la plus rapide en dernier. Dans notre cas, c'était Penny Oleksiak, qui est celle qui a gagné d'ailleurs la médaille d'or à Rio. Puis la première, généralement, tu veux quelqu'un qui a un bon départ puis qui est constant. Parce que tu veux t'assurer qu'au moins tu commences la course avec quelque chose qui est bon, qui est peut-être pas le meilleur, mais qui tu sais que ça va être constant, tu sais que ça va être parmi les tops. Puis moi, j'avais une réputation d'avoir de la constance dans mes performances. Donc, c'est très rare que mes temps fluctuaient. C'était généralement pas mal tout autour des mêmes centièmes, dizaines de secondes. C'est comme si tu savais d'avance comment la course allait commencer, puis c'est très sécurisant pour les autres ensuite. Donc, c'était pour cette raison-là que j'étais en première. Puis honnêtement, c'était le rang que je préférais parce que j'aimais donner le ton un petit peu à la course. Puis ce qui est le fun aussi, c'est que je peux regarder le restant de la course à l'extérieur de l'eau puis juste enjoy le reste. C'est sûr qu'après ça, c'est difficile parce que tu ne contrôles pas la suite, mais c'est le fun de pouvoir au moins... Tu n'as plus le stress puis tu peux juste espérer le mieux pour la suite.
C'est ça. Et tu sais que... Toi, ta mission est accomplie, en fait, d'avoir cette de tone là, pour tes coéquipières. OK. Sandrine, on va maintenant parler de cette transition que tu as vécue du monde du sport vers le monde professionnel. Tu poursuivais des études en droit et tu effectuais un stage au sein de Borden Lanier Gervais en 2018. Le bureau était par ailleurs ouvert à ce que tu continues la natation de haut niveau en parallèle de ton travail. Mais tu as vécu, du moins, tu en parlais dans une entrevue, que tu as vécu un moment là, en 2018 où ça a créé un déclic et tu as décidé que tu allais prendre ta retraite. Peux-tu nous parler de ce moment-là?
Oui, quand j'ai fait mes entrevues pour travailler chez BLG, on m'avait dit très explicitement que je pouvais continuer à m'entraîner. Puis à ce moment-là, j'étais un peu en transition à savoir quand est-ce que je vais prendre ma retraite. Je ne sais pas exactement quand est-ce que ça va être, mais je continue à m'entraîner. J'étais sur le circuit universitaire cette année-là. C'est sûr que mon niveau d'entraînement avait drastiquement diminué parce que là, j'étais retournée à l'école à temps plein puis je me concentrais un peu plus vers le fait de débuter ma carrière professionnelle. Puis le déclic que j'ai eu, c'est vraiment en lien avec le fait que je commençais quelque chose de nouveau dans ma vie, un nouveau chapitre, le fait de travailler comme avocate. Puis, après deux semaines de travail, puis c'était un travail à ce moment-là, j'étais étudiante d'été avec mes autres collègues, puis j'ai vraiment ressenti le même sentiment de faire partie d'une équipe dans le sport. Puis d'avoir tous des standards de performance élevés avec des objectifs. C'est comme un environnement vraiment de haute performance comme j'avais dans le sport. Donc, c'est comme si ça s'est fait naturellement que là, j'ai retrouvé l'autre chose qui pouvait se comparer facilement à ce que j'avais dans la natation. Puis c'est surtout que, ayant fait l'école toujours à temps partiel pour me permettre de m'entraîner à temps plein, j'avais pas envie de commencer ma carrière professionnelle à 50%. Je voulais la commencer vraiment à 100% avec mes collègues puis de vraiment vivre ce premier été-là à 100%. Donc, j'ai vraiment eu ce déclic-là dans la mesure où je ressentais naturellement que le temps était venu pour moi de passer à autre chose. Puis honnêtement, je souhaite à tous les athlètes qui pensent à prendre leur retraite à avoir la même expérience parce que je sais que ce n'est pas la même chose pour tout le monde. Des fois, c'est forcé. Mais le plus possible, je pense que quand c'est fait de façon naturelle, sans nécessairement mettre une date à l'agenda, je pense que c'est la meilleure façon de ne pas avoir de regrets puis d'être capable de mettre ça derrière nous de façon sereine.
Et cette manière-là dont tu as été en mesure de prendre ta retraite, c'est quelque chose que tu partages notamment avec Roselyne Filion. Du point de vue où est-ce que toutes les deux, vous avez été en mesure de mettre fin à votre carrière sur vos propres termes, et ça, c'est par ailleurs quelque chose que vous mentionniez dans le balado que vous avez effectué, que mettre fin à sa carrière sportive sur ses propres termes, c'est un luxe. Et selon toi, dans quelle mesure trouves-tu effectivement qu'il s'agissait d'un luxe?
Ben, comme je viens de le mentionner, c'est un luxe dans la mesure où il n'y a pas de regrets par rapport à la carrière. Puis c'est surtout que quand on fait un sommaire, un look back sur notre carrière, généralement, ce qu'on va se souvenir le plus, c'est la fin. Puis quand la fin est faite de façon naturelle, avec nos propres thèmes, je pense que l'ensemble de la carrière, on s'en souvient peut-être avec moins il y a moins d'animosité des fois par rapport à peut-être les moments plus difficiles. Fait que c'est pour ça que je pense que dans la mesure où c'est fait, ça s'est fait dans nos propres termes, on est capable de mieux apprécier l'ensemble de notre carrière puis de ne pas avoir de regrets par rapport à comment ça s'est terminé.
Tu soulignes également dans différents balados que quelque chose qui t'a beaucoup aidé suite à ta retraite sportive, c'était d'avoir cet effet de nouveauté-là sur une base régulière, des objectifs à court terme, comme à l'époque, c'était ben, terminer tes études, passer ton barreau, commencer à travailler chez Borden, Lanier Gervais. Mais une fois que tous ces objectifs-là ont été atteints, que la routine a réellement embarqué, tu dis avoir commencé à te remettre davantage en question. Peux-tu nous parler un peu de ces interrogations-là que tu as eues? Et est-ce que c'est quelque chose que tu vis encore actuellement en 2026?
Bonne question. Oui, dans le fond, c'est que j'ai réalisé qu'avec la carrière d'un athlète, en fait, tu vis à la saison. Puis dans la saison, il y a différentes compétitions, donc il y a plusieurs milestones dans une carrière, autant à court, à moyen qu'à long terme. Un objectif à court terme, ça peut être seulement la compétition qu'on va faire aux États-Unis, ensuite de ça, le moyen terme, ça va être de se qualifier sur une équipe nationale, puis à long terme, ça va être de se qualifier puis de gagner une médaille aux Jeux olympiques. Donc, tu es tout le temps en recherche, puis en mode, j'essaie d'atteindre puis de réaliser un objectif. Puis qu'est-ce que je vais faire au quotidien pour me permettre d'atteindre cet objectif-là? Fait que moi, ayant carburé sur ce processus-là d'objectif, de mettre un processus en place pour poursuivre un plan. Puis c'est la même chose à l'école, je pense que tout le monde, on fait... Le primaire, le secondaire, le cégep, l'université, à chaque fois, tu es comme, bon, mais je finis mon année, j'ai mon diplôme, OK, c'est quoi la prochaine étape? Fait que j'ai vraiment eu une réalisation quand je suis arrivée sur le marché du travail, où est-ce que, ben après avoir fait mon stage, après avoir fait mon premier été, mon barreau, mon examen du barreau, mon stage de 6 mois, puis que là, j'ai finalement été assermentée comme avocate, les mois ont commencé à débouler, puis là, j'ai juste eu la réalisation. OK, mais c'est quoi la prochaine étape? Y a-t-il quelqu'un qui va me dire qu'est-ce que je dois faire? Parce que je dois ajouter l'élément aussi que quand tu es un athlète, tu as tout le temps un coach qui te dit un peu, c'est quoi que tu dois faire pour atteindre tes objectifs. Donc là, je me sentais vraiment laissée à moi-même. Donc, ça a été un petit peu déterminer c'est quoi ces objectifs-là, déterminer... qu'est-ce que je dois faire pour les atteindre. Mais je pense que le message, au final, c'est de dire que si je me rappelle comment j'ai commencé le sport, je n'avais pas nécessairement d'objectif. J'essayais juste de m'entraîner parce que j'avais du plaisir, puis je réalisais que j'apprenais beaucoup. Je créais un réseau autour de moi, puis j'essayais juste d'avancer là-dedans sans nécessairement me dire un jour, je veux aller aux Jeux olympiques. Peut-être qu'il y en a qui sait ça, mais moi, personnellement, quand j'ai commencé à 11 ans, c'était pas du tout ça mon objectif. Ça s'est vraiment matérialisé avec les années. Donc, je me laisse en ce moment vraiment cette chance-là me laisser le temps de définir c'est quoi les objectifs, puis de pas nécessairement me mettre la pression tout de suite de dire, OK, je veux faire X, Y, Z dans ma vie, voici ce que je veux faire pour y arriver. Parce que c'était pas du tout ce que j'avais quand j'ai commencé à 11 ans. Et fait, pour répondre à ta deuxième question, est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui? Je vais être totalement honnête avec toi, puis je vais te dire que oui, c'est encore en construction de ces objectifs-là. Sans trop dévoiler, je pense que c'est un peu plus clair que ça l'était en 2020, quand j'ai eu cette réalisation-là. Mais j'essaie de ne pas trop être sévère avec moi-même, puis de me laisser encore le temps de laisser la découverte puis les opportunités un peu se tracer devant moi.
Bien, c'est bien compréhensible. Merci beaucoup pour cette belle réponse remplie d'introspection. un autre enjeu dont tu as beaucoup parlé dans les dernières années, c'est cette quête constante d'identité dans ton nouveau milieu, cette volonté de passer de Sandrine l'Olympienne à Sandrine l'Avocate et non pas seulement être taguée comme Sandrine l'Avocate qui a participé aux Jeux olympiques. As-tu l'impression que tes pairs sont parvenus avec le temps à faire cette différence? Et toi, de ton côté, crois-tu avoir trouvé ta place et à définir cette nouvelle identité?
De plus en plus, je pense que je dois en venir quand même à la réalisation que ça va toujours faire partie de moi, donc je ne pourrai jamais, puis je ne pense pas non plus que c'est ça le but. C'est juste que je pense que quand j'ai commencé dans un nouveau milieu, j'essayais tellement de faire ma place en tant qu'avocate que c'était difficile pour moi de toujours me faire associer à l'athlète parce que j'essayais non pas de me détacher de ça, mais de créer cette nouvelle identité-là. Mais c'est ça, je pense que quand je regarde ça dans son ensemble, je dois quand même réaliser puis accepter. Puis honnêtement, ça me va très bien là, de comprendre dans le fond que je suis une ancienne athlète puis ça va me suivre toute ma vie. Puis je suis extrêmement fière de ça. Donc, ce n'est pas nécessairement quelque chose que je veux qui me quitte éventuellement. C'est vraiment plus en lien avec le fait que je veux justement être capable de retrouver cette espèce de passion et niveau de confort. Et en fait, quand on parlait un peu plus tôt là, du fait que j'avais des experts à mon balado, ben j'étais experte quand j'étais nageuse, mais je ne sais même pas si je serais capable de dire que je suis experte comme avocate parce que pour moi, je pense que c'est encore un peu tôt, même si ça fait 6-7 ans que je fais ça. Pour moi, de devenir expert en la matière, c'est quelque chose qui se bâtit vraiment à travers les années. Donc, c'est pas quelque chose que je serais prête à dire qui me définit en ce moment, mais c'est quelque chose que je vise, je pense, à la longue.
Tu dis peut-être que tu ne te considères pas encore experte en tant qu'avocate, mais une chose est sûre, c'est que tes pairs commencent à reconnaître ton bon travail, comme en témoigne ton apparition dans l'édition 2026 de la liste des avocats et avocates à surveiller au Canada, de la publication de Best Lawyers in Canada. Alors tout d'abord, félicitations pour cette belle reconnaissance. Et une reconnaissance un peu plus professionnelle comme ça, en quoi, selon toi, ça s'apparente et ça se distingue la gratification de voir tes efforts récompensés dans une piscine comme dans un bureau d'avocat?
Bien, autant que tu sais dans la piscine que dans un bureau d'avocat, tu fais pas nécessairement les choses pour avoir des prix. Puis là, c'est sûr que je vais différencier le terme prix d'une médaille, là, parce que c'est sûr que quand je nageais, je voulais avoir la médaille, mais je voulais pas nécessairement avoir le prix de la meilleure athlète au Québec. Là. Fait que c'est sûr que c'est quelque chose qui arrive, puis c'est comme une tape dans le dos de voir que on est reconnu comme ça, mais c'est pas nécessairement pour ça que je travaille fort. T'sais, c'est sûr que je suis une athlète de haut niveau, je vais toujours avoir ce désir-là de me surpasser dans tout ce que je fais dans la vie. Là. Donc, c'est un peu inné en moi, mais c'est ça, de voir que c'est reconnu comme ça, c'est sûr que ça fait plaisir et ça me motive à continuer.
Sandrine, j'aurais une dernière question pour toi, une question un peu introspective, penchée vers l'avenir, en fait. Depuis le début des années 2000, tu as baigné littéralement dans le monde du sport canadien. Et même lors de ton passage vers le droit, tu n'as pas tout à fait quitté le milieu. Tu as notamment siégé sur le conseil d'administration du Centre de règlement des différends sportifs du Canada entre 2019 et 2022. En 2021, tu rejoins le conseil d'administration de la Fédération de natation du Québec. J'ai envie de dire que tu es encore dessus. Tu peux me corriger là-dessus?
Oui, encore dessus.
Et même au sein de BLG, tu gardes un penchant sur le droit du sport. Tant d'un point de vue sportif qu'administratif, comment se porte le monde du sport au Canada selon toi et à quoi est-ce qu'on peut s'attendre dans les prochaines années?
Mon Dieu, il y a tellement de choses à dire par rapport à ça, mais je pense que si je peux au moins commenter ce qui s'est passé dans les derniers mois avec la Commission sur l'avenir du sport au Canada, le rapport qui a été émis d'ailleurs, c'est un travail qui a été fait en partie par des avocates du bureau de BLG, dont Nadia Effendi et Karine Famy. Donc, c'est sûr que de voir l'intérêt de s'attarder et de mettre des ressources pour justement améliorer le sport au Canada, c'est extrêmement encourageant, mais surtout la nouvelle annonce concernant le financement du sport au Canada, bien là, ça a été vraiment la cerise sur le sundae pour vraiment espérer que le sport au Canada s'en va vers quelque chose de mieux. Je pense que c'est un peu la première étape vers toutes les mesures qu'on a besoin de mettre en place. Je pense que juste les mesures visant à prévenir le harcèlement puis la maltraitance dans le sport, ça va faire partie des mandats sur lesquels on va devoir se pencher de façon plus globale. Puis ça, évidemment, ça vise le sport au Canada, mais c'est surtout, il faut penser au fait que ça va du grassroots au sport d'excellence. Ce n'est pas seulement quand je dis grassroots, c'est les clubs, ça vise les jeunes qui veulent éventuellement atteindre ou pas là, des plus hauts sommets. Donc, pour répondre à ta question, moi, la raison pour laquelle je continue d'être impliquée dans le sport, c'est parce que, comme je l'ai dit plus tôt, le sport, ça va toujours faire partie de moi. J'ai eu une carrière qui, somme toute, je dirais, qui a été assez belle dans son ensemble. T'sais, j'ai jamais eu de différents juridiques, j'ai jamais eu de situation qui pourrait s'apparenter à du harcèlement. Puis justement, de faire partie du CA, du Centre de règlement des différences sportives au Canada, ça m'a fait réaliser que c'est pas tout le monde qui a eu la chance de vivre une carrière aussi, aussi belle et fluide. Puis ben, de faire partie également du conseil d'administration de la Fédération de natation du Québec, ça me permet de continuer de voir comment la natation au Québec continue d'évoluer. Mais j'ai un grand mandat de faire partie du comité d'intégrité sur le site de la FNQ qui me permet de justement continuer à essayer de mettre à profit mes compétences comme avocate en essayant d'améliorer justement toutes les processus au Québec et spécifiquement la natation au Québec pour essayer d'éradiquer le plus possible les situations et prévenir les situations de harcèlement. Donc, j'ai commencé ma réponse en te disant il y a plusieurs choses à dire, puis on dirait que je ne sais pas comment boucler la boucle autrement que de dire que je suis quand même extrêmement encouragée en fait par les dernières mesures qui ont été mises en place, puis confiante qu'on s'en va dans la bonne direction. Mais c'est pas nécessairement, je pense que le tour n'est pas nécessairement joué, puis il va falloir attendre de voir dans les prochaines années comment tout ça va se dérouler.
Mais ça, j'en ai aucun doute. Et une chose est sûre, c'est que, bon, tu te considères très, très chanceuse là, d'avoir pu avoir une carrière qui s'est bien déroulée, mais ça ne t'empêche quand même pas d'être une voix importante pour les enjeux, notamment avec ton balado et avec le conseil d'administration de la FNQ, tout ça. Alors, je te lève franchement mon chapeau. Donc, je trouve sincèrement qu'on a besoin de plus de gens comme toi dans le monde du sport, à la fois au Québec et au Canada. Et par rapport à la Fédération de natation du Québec, tu mentionnais notamment que en 2014, lorsque tu es parti à Toronto, il y avait un centre à Montréal qui avait fermé. Est-ce qu'il y a une possibilité que ce centre-là réouvre? Ça ressemble à quoi actuellement?
Écoute, à chaque fois que je parle avec un acteur du milieu de la natation au Québec, ça revient toujours sur la table. C'est comme un peu mon cheval de bataille. Je dis tout le temps que j'aimerais ça que le centre de natation national revienne à Montréal. Il y a eu pendant quelques années le centre de natation paralympique, mais je pense que ça s'est dissous. Bref, je pense qu'on a les installations au Québec pour avoir ça, mais peut-être que, bon, je ne connais pas toutes les raisons. Est-ce que c'est une question de budget? Est-ce que c'est une question de trouver le bon entraîneur pour mettre ce centre-là en place? Bref, j'espère honnêtement qu'on va être capable de réinstaurer ce centre-là parce que c'est vraiment pour moi ce qui a été un catalyseur de toute ma carrière de haut niveau quand j'ai commencé à m'entraîner au Centre national de natation à Montréal en 2009. Donc, en ce moment, c'est sûr qu'on a quelques bons athlètes québécois sur la scène internationale en natation au Québec, mais avant, on en avait beaucoup plus que ça. Puis j'espère qu'on va retrouver le niveau qu'on avait à l'époque, et peut-être que ça va passer par le fait qu'on va ramener le centre, mais bon, je peux rien promettre parce que je suis pas dans ces décisions-là.
Ben, on va toucher du bois pour que ça se concrétise, ton fameux cheval de bataille. Sandrine, moi, ça fait le tour de mes questions. Je te remercie énormément pour ton temps. Est-ce que tu avais un mot de la fin, un dernier souhait, quelque chose que tu avais omis de dire lors de notre entrevue?
Non, mais je pense que ça fait le tour. Puis, ben, merci beaucoup de faire ces balados-là. Je pense que c'est extrêmement important juste aussi de parler du sport amateur, là, parce que c'est un petit peu une des raisons pour laquelle j'avais parti de mon balado. C'était un peu de parler des enjeux qui touchent le sport amateur, le sport de façon globale au Québec, au Canada. Pas nécessairement parler de sport professionnel, puis des enjeux peut-être plus facile à parler, donc de vraiment parler des choses qui sont plus délicates, je pense que ça mérite qu'on s'y attarde. Donc bravo pour ton balado.
Ben, c'est bien gentil, c'est très apprécié. Non, effectivement, comme je mentionnais au début, j'ai appris énormément de choses en écoutant quelques-uns des épisodes que tu as fait. Alors encore une fois, je te lève mon chapeau par rapport à ça. C'est tout pour ce balado. Merci tout le monde d'avoir écouté et à la prochaine.